Coucou chers auditeurs, donc comme nous vous le disions, nous sommes dans l'émission Un Nouveau Monde. On s'intéresse aujourd'hui à une construction particulière, c'est une construction utile, une construction à venir, en tout cas c'est ce que nous espérons. C'est la construction d'une école pour des enfants forcément, mais pour des enfants un petit peu particuliers. Et pour ça nous avons invité Caroline Biot-Duchesne qui était déjà venue il y a quelques semaines, c'était le 16 février, pour nous parler d'un spectacle qui est derrière nous, qui était super. Et aujourd'hui, on parle donc de cette école. Bonjour, Caroline Biot-Duchesne.
Bonjour.
Merci d'être de nouveau venue. C'est avec énormément d'énergie que vous êtes là. Je sens que vous êtes passionnée par votre projet. On en a déjà un peu parlé. Vous êtes tout sourire, un vrai soleil. Et donc, nous allons parler de cette fameuse école que vous avez à cœur de mettre en place, sachant qu'on part de rien, si ce n'est des idées et du courage. Plein de courage, plein d'idées.
Oui. Plein de courage, d'idées, mais c'est dans le prolongement de quelque chose qui existe déjà tout de même, parce que ce travail de création d'une école, on cherche à créer une école en pédagogie Waldorf-Steiner dans la région de Namur. Il y a un embryon qui existe déjà depuis 2 ans, une petite école primaire, une classe en fait, une petite classe primaire multiniveau qui existe à Boitvillers. Qui est hébergé par le Jardin des Deux Pays, qui est une autre petite école maternelle qui rassemble 12 enfants aussi en pédagogie Steiner. Donc il y a un embryon qui existe et des enfants déjà dans cette école, une petite vingtaine d'enfants, et on aimerait vraiment pouvoir s'agrandir parce que une école privée ne peut pas fonctionner très longtemps sur simplement l'argent apporté par le parent. Et si on veut démocratiser l'école et nous permettre au plus grand nombre de pouvoir profiter de cette pédagogie, c'est important de pouvoir être subventionné par la communauté française et donc d'être suffisamment nombreux. Donc on cherche un bâtiment.
Pour commencer déjà un terrain, un bâtiment
où ce serait possible vraiment d'aménager à peu près 8 classes déjà pour commencer en fait, donc classe maternelle et classe primaire.
Alors quand on dit on cherche, on ne passe pas par des agents immobiliers, c'est avoir ça de façon gratuite ou en tout cas pas très cher,
oui.
Soit un bâtiment qui vous appartiendrait ou qui serait prêté, ça suffirait,
oui,
déjà,
tout à fait.
Qui vous permet en fait de faire une école. Alors pourquoi une école? C'est parce que les enfants que vous comptez mettre dedans ne sont pas les enfants qu'on trouve habituellement dans les rues.
C'est vraiment toutes sortes d'enfants, hein. C'est les enfants de toutes les personnes intéressées par cette pédagogie, et aussi un prolongement de cette pédagogie vers ce qu'on appelle la pédagogie curative, c'est-à-dire que vers des enfants ayant un handicap, en fait, qui se trouvent actuellement dans des écoles spécialisées. Donc il y aurait à la fois l'école pour enfants typiques, je dirais, et l'école un peu plus spéciale qui serait orientée pédagogie curative et art-thérapie pour ces enfants.
Alors bon, il existe des écoles aujourd'hui qui s'occupent des enfants, on va dire, à problème, ou en tout cas avec porteurs d'un handicap. Alors pourquoi est-ce que ces écoles ne sont pas bien? Ou pas assez efficaces? Quelle est la raison? Pourquoi faire une école en plus? C'est quoi la raison de faire une école en plus?
Alors pourquoi on fait une école? C'est que tous les parents qui se rassemblent ici ont plusieurs raisons qui leur tiennent à cœur d'utiliser cette pédagogie qui est assez différente des pédagogies habituellement utilisées dans les autres écoles. C'est une pédagogie qui donne une égale importance à la sphère intellectuelle, à la sphère artistique et à la sphère manuelle, en fait. C'est-à-dire que à peu près un tiers, on travaille le cognitif, le niveau du cœur et du sentiment et le niveau physique, manuel. Donc déjà, ça permet de s'adresser à des intelligences différentes et à développer chez les enfants des talents différents. Sans les mettre forcément à l'extérieur de l'école ou en échec scolaire, s'ils ont que la sphère intellectuelle qui ne fonctionne pas très bien. Donc le but, c'est que tout le monde y trouve sa place dans cet enseignement-là et puisse développer son intelligence. C'est un système qui est sans compétition aussi, donc... Où les enfants ne sont pas notés, ne sont pas comparés. En tout cas, ils n'ont pas cet esprit de comparaison. Ils ont l'esprit par contre, de rigueur dans leur travail, aussi bien dans leur travail artistique que dans leur travail du corps, en fait. Ils ont des matières un peu différentes des matières qu'on trouve dans les écoles traditionnelles. Et surtout, un gros investissement des enseignants qui est très différent, je trouve, de l'école traditionnelle et aussi un investissement des parents. Donc les parents y trouvent aussi leur place dans l'école et peuvent y contribuer.
Alors donc c'est de la méthode de Rudolf Steiner.
Oui.
Alors vous pouvez nous expliquer quelle est la particularité de la méthode Steiner par rapport à ce qu'on trouve classiquement dans nos écoles.
Alors il y a, voilà, cette histoire de un tiers fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que tous les enfants ont un enseignement intellectuel, il s'appelle par période le matin de 2 heures, et on travaille en fait pendant 4 semaines une matière. Donc pendant 4 semaines, ils vont travailler les lettres, par exemple en première primaire, les lettres. Puis 4 semaines de calcul, ils vont travailler les chiffres, les opérations. Puis ils vont faire 3 ou 4 semaines d'éveil. On travaille les jours de la semaine, les rythmes, les saisons, etc. Les mois de l'année, enfin différentes choses de l'éveil. Ou la mythologie, ou des contes, des récits, autre chose. Et puis ils vont revenir ensuite à une période de lettres, voilà. Ils ont aussi, donc ça c'est le matin. Ensuite ils ont une manière d'aborder aussi la matière intellectuelle différemment, c'est-à-dire qu'ils l'abordent d'abord par le rythme, par la partie rythmique en fait. Ils apprennent à l'étape de multiplication debout en rythme, ils comptent en rythme, ils font des pas, etc. Donc ça met tout le corps en mouvement et c'est une façon d'apprendre qui utilise le corps en entier. Avant de poser ça sur un cahier, avant de poser ça sur une feuille, il y a énormément de travail de mouvement dans la classe. Qui demande aussi une rigueur, mais une rigueur de concentration de ce que fait le professeur, des rythmes utilisés, de faire à 25 dans la classe, tous aller au même moment, etc. Donc il y a tout ce travail-là. Ils utilisent aussi une matière qui s'appelle l'eurythmie, qui est un art du mouvement. Et donc aussi, ils développent certaines facultés à travers le mouvement. C'est un art du mouvement. Je ne peux pas trop en dire plus, je ne suis pas spécialisée là-dessus, mais on peut faire des chorégraphies, par exemple, sur un poème qu'ils ont appris, une façon de se déplacer, de se mouvoir dans l'espace. Ils intègrent aussi des notions beaucoup plus intellectuelles par le mouvement. Ensuite, ils ont plein d'autres matières qu'on ne trouve pas nécessairement dans l'école traditionnelle, comme la musique. Ils ont au moins deux cours de musique par semaine et ils font du chant choral aussi. Ils ont de la peinture, aquarelle, ils ont des cours de sport, mais qui sont plus des jeux coopératifs, en tout cas dans les petites classes. Voilà. Mm-hmm. Pas de compétition, il n'y a pas cet esprit de compétition. Bon, il faut dire que les enfants n'ont pas non plus de... Vous dites cote en Belgique, on dit note en France, mais voilà, ils ne sont pas cotés, en fait. Ils n'ont pas cet esprit d'être cotés. Le professeur établit ce qu'ils appellent un regard sur l'enfant, et du développement global de l'enfant et le fait sous forme de poème qui remet à l'enfant en fin d'année en fait, qui est un regard sur lui-même. Et c'est très individualisé comme pédagogie aussi. Ils vont intervenir différemment en fonction des différents types de tempéraments de l'enfant.
Et donc il y a un plus grand équilibre entre le travail de l'intellect et le corps.
Le
corps fonctionne, c'est ça. Donc on prend les trois niveaux, on fait fonctionner tout ça pour que ça tourne mieux.
Oui.
Et ça, on trouve ça donc dans l'enseignement de Rudolf Steiner.
Oui, c'est vraiment...
Dans l'enseignement normal, en tout cas, qui est reconnu par, par notre...
La communauté française.
Par notre communauté française.
Oui, il y a école subventionnée en Belgique, 2 écoles subventionnées à ce jour. C'est une qui est à Cours-Saint-Étienne, qui existe depuis 21 ans en Wallonie. Une autre à Tours, près de Tournai, à Templeuve, qui existe depuis moins longtemps, 4 ans, je pense. Toutes les deux sont subventionnées par la communauté française. Et en Flandre, il y a énormément d'écoles.
Oui. Secondaire qui se trouve en Anvers.
Secondaire,
et université en Allemagne.
Voilà, exactement.
Oui. Donc ceux qui veulent faire le cycle complet, c'est possible, même en université, avec la méthode Steiner. Mais
En ce moment-là, c'est reconnu en Allemagne, oui.
C'est ça, parce qu'en fait, il est d'Allemagne ou d'Autriche.
Oui, ça. Tout à fait.
Donc ça remonte des années 30 en réalité. Hein,
oui, c'est du début du XXe siècle en fait. En même temps que
Internet.
Maria Montessori d'ailleurs, c'est des grands pédagogues début du XXe siècle.
Donc ils ont proposé d'autres choses qui n'ont pas été retenues, en tout cas dans notre enseignement, je veux dire, classique.
Oui.
On est dans un système plus intellectualisé. Là, c'est une autre méthode et apparemment, ça fonctionne très bien puisque ceux qui sortent des primaires rentrent très facilement en secondaire sans être très... Ils n'ont pas besoin de faire un pont.
Il n'y a pas de différence de niveau. Du fait que c'est subventionné aussi, puisqu'il y a quand même un besoin de passer le CEB en Belgique, Donc ils sont au même niveau.
C'est ça. Ouais. Bon, mais il n'y a pas de perte, d'après ce qu'on peut voir, il n'y a pas de retard, etc. pour ces enfants-là.
Ils apprennent un peu plus lentement la lecture et l'écriture au départ, mais finalement, ils rattrapent tout sur le cycle.
Mm-hmm. Et on tient plus compte de leur jeunesse et donc de les faire bouger, etc.
Oui,
etc.
Oui. Ça, c'est vrai que pour un enfant qui aurait du mal à rester assis, c'est une pédagogie autre qui peut vraiment utiliser ses capacités physiques aussi. Oui. On leur demande aussi beaucoup de concentration et de rigueur dans le mouvement. Hein. C'est pas parce que c'est de l'art que c'est pas rigoureux, c'est pas parce que c'est du dessin que ça demande pas un énorme travail de la volonté. Parce qu'ils utilisent en plus des crayons gras, des blocs de cire et des crayons de cire, où il faut beaucoup de volonté quand on appuie pour faire un beau trait, etc., et pour faire ressortir les couleurs et tout. Donc c'est exigeant aussi, mais c'est une autre, ça développe autre chose chez eux, en fait. Ça passe pas par l'intellect.
C'est ça. Ouais. Alors on va poursuivre notre émission. Avant ça, j'aimerais bien que nous passions une chanson de Ginette Reynaud qui s'intitule « L'essentiel, c'est d'être aimé ». Et je pense que pour pouvoir réaliser l'objectif, le projet que vous avez, ça implique énormément d'amour. D'abord, des gens qui vont le faire, mais également l'amour des autres qui devraient vous aider pour pouvoir porter ce magnifique projet.
L'amour des enfants.
Tout à fait. Mais l'amour de la vie, tout simplement. Ouais. Donc, je vous propose d'écouter cette chanson de Ginette Reynaud qui s'intitule « L'essentiel, c'est d'être aimé ».
Equinox.